Le principal problème de la région est l'intervention des États-Unis dans toutes les affaires, selon le secrétaire général du Hezbollah libanais. Le chef de la diplomatie iranienne chaleureusement accueilli à Islamabad. Et au Niger, les putschistes dénoncent l'accord militaire avec la France. Paris s'y oppose. C'était les principaux titres de l'actualité. En voici maintenant les détails. Le secrétaire général du Hezbollah libanais déclare que les politiques interventionnistes des États-Unis sont à l'origine de tous les troubles dans la région, notamment au Liban. Syed Hassan Nasrallah, secrétaire général du Hezbollah libanais, a qualifié l'intervention et la présence militaire américaine dans l'Asie de l'Ouest de principales causes d'insécurité, de crise et de troubles dans cette partie du monde. Il a fait ses remarques lors d'un discours télévisé et diffusé en direct depuis la capitale libanaise Beyrouth jeudi, alors qu'il s'adressait à une cérémonie tenue en commémoration du défunt érudit musulman, le cheikh Afif al-Nablousi. La politique interventionniste de Washington est la source des problèmes de la région, puisque Washington cherche ouvertement à intervenir dans tous les domaines. La politique de la soumission aux États-Unis est pour sa part un double problème, dit-il. On vous lisait aussi en titre, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, s'est entretenu avec le premier ministre pakistanais après avoir tenu jeudi une réunion avec son homologue pakistanais à Islamabad. Au cours de la réunion, les deux parties ont discuté de l'élargissement des relations économiques et commerciales ainsi que du renforcement des interactions frontalières. Ils ont également appelé à renforcer la coopération entre l'Iran et le Pakistan afin de maintenir la paix et la sécurité régionale. Amir Abdollahian, qui est arrivé à Islamabad mercredi soir, doit tenir des réunions avec d'autres responsables pakistanais, dont le président pakistanais du Sénat du pays et le commandant de l'armée pakistanaise. Un tribunal albanais a imposé une interdiction d'entrée à la chef de file de l'organisation terroriste Mojahedine Khalr, OMK, qui a assassiné des dizaines de milliers de ressortissants iraniens. Dans une décision rendue publique jeudi, le tribunal spécial albanais contre la corruption et le crime organisé, SPAC, a ordonné l'interdiction de l'entrée de Mariam Rajavi dans le pays, a rapporté l'agence de presse iranienne Tasnim. Des sources bien informées s'exprimant sous couvert de l'anonymat ont déclaré que le verdict est intervenu après que des responsables albanais ont examiné les éléments de preuve disponibles et ont conclu que l'OMK utilisait le pays pour organiser des attaques terroristes anti-iraniennes. Suite du journal, la France a réagi ce 4 août à la dénonciation des accords de coopération militaire par les putschistes au Niger en soulignant que seules les autorités nigériennes légitimes étaient en mesure de les rompre. La France rappelle que le cadre juridique de sa coopération avec le Niger en matière de défense repose sur les accords qui ont été conclus avec les autorités nigériennes légitimes, a indiqué ce 4 août le ministère français des Affaires étrangères. Ces autorités sont les seules que la France, comme l'ensemble de la communauté internationale, reconnaît, a-t-il ajouté, tout en prenant note du communiqué de la junte. L'ex-chef de la garde présidentielle au Niger, le général Abdulrahman Tiani, a pris le pouvoir le 26 juillet, retenant prisonnier le président élu Mohamed Bazoum. Depuis cette date, le 3 août, les militaires au pouvoir ont annoncé dans un communiqué lu à la télévision qu'ils dénonçaient les accords de coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense avec Paris. La France compte encore 1 500 hommes au Niger. La France qui a évacué 577 de ses ressortissants au Niger les 1er et le 12 août compte 1 500 soldats déployés pour la lutte antiterroriste dans le pays miné par les violences de ces groupes armés. La présence de la France a aussi été remise en cause le 3 août lors de vastes manifestations à Niamey en soutien aux putschistes. L'actualité est aussi et surtout le conflit en Ukraine. Dans une déclaration conjointe publiée 4 août, les sept dirigeants de l'initiative de paix africaine pour l'Ukraine et le président russe ont appelé à lever les obstacles à l'exportation de céréales et d'engrais russes. Le texte rappelle notamment à des mesures concrètes pour supprimer les obstacles à l'exportation des céréales et d'engrais russes, Ceci permettra, selon eux, de reprendre pleinement la mise en œuvre de l'initiative du paquet Mer Noire du secrétaire général des Nations Unies approuvée le 22 juillet 2022 à Istanbul. Signé sous l'égide de l'ONU, cet accord devait permettre à l'Ukraine de poursuivre ses exportations de céréales et de denrées alimentaires, mais Moscou n'a pas renouvelé mi-juillet sa signature à sa prorogation. La Russie réclame en effet depuis des mois le respect des clauses de ces accords la concernant, inappliquées par l'Occident. Bruxelles a accusé Moscou de faire de la nourriture une arme afin de rassurer les pays africains inquiets de voir leurs importations se tarir. Vladimir Poutine a annoncé le 27 juillet que la Russie serait en mesure d'assurer dans 3 mois des livraisons gratuites de 25 à 50 000 tonnes de céréales au Burkina Faso, au Zimbabwe, au Mali, à la Somalie, à la République centrafricaine et à l'Érythrée. Libérer les 200 000 tonnes d'engrais russes bloquées dans l'UE. Les dirigeants ont également exhorté l'ONU à prendre les mesures nécessaires pour libérer les 200 000 tonnes d'engrais russes bloquées dans les ports maritimes de l'Union européenne pour une livraison immédiate et gratuite aux pays africains, ajoute la déclaration conjointe. Vladimir Poutine a régulièrement dénoncé ce blocage du fait des sanctions instaurées par Bruxelles. Et pour fermer le journal, Pyongyang a critiqué vendredi le nouveau plan d'aide militaire américain à Taïwan, ont rapporté les médias officiels, accusant les États-Unis d'aggraver les tensions qui pourraient mener au déclenchement de la guerre dans la région. Les États-Unis ont dévoilé vendredi dernier un programme d'aide militaire à Taïwan d'une valeur estimée à 345 millions de dollars. Le Congrès ayant autorisé jusqu'à 1 milliard de dollars d'aide en armement pour l'île dans le cadre du budget 2023. Dans un communiqué publié par l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA, Mang Yong-rim, directeur général du département des affaires chinoises du ministère nord-coréen des affaires étrangères, a affirmé que le plan était une provocation politique et militaire dangereuse et une violation flagrante du principe d'une seule Chine. C'est la sinistre intention des États-Unis de faire de Taïwan une base avancée, insubmersible contre la Chine et la tranchée de première ligne pour mener à bien leur stratégie de dissuasion contre la Chine, indique le communiqué de la Corée du Nord. C'était le journal. Merci à vous de l'avoir suivi et restez à l'écoute de notre commentaire politique. Remaniement ministériel, tentative ratée d'Emmanuel Macron pour sortir de la crise, tel est le thème de notre commentaire politique. Au terme de longues tractations entre le président français et sa première ministre, les noms finalement sont tombés jeudi. Les départs pressentis sont confirmés, mais les grands portefeuilles ne sont pas affectés par les changements. On connaît enfin le gouvernement français qui fera face à une rentrée qui s'annonce tendue après la grogne sociale sur les retraites et les violences urbaines. L'Élysée a annoncé le remaniement ministériel tant attendu via un simple communiqué de presse après des semaines de rumeurs et des fuites dans les médias. L'événement faisait effectivement depuis longtemps l'objet de commentaires dans la presse française, d'autant plus qu'Emmanuel Macron avait annoncé pour le 14 juillet un bilan de ses 100 jours d'apaisement et d'action dans la foulée des manifestations massives contre la réforme des retraites. La première ministre Elisabeth Borne, confirmée à son poste par l'Élysée le 17 juillet, avait souhaité procéder à des ajustements dans son gouvernement sans remaniement d'envergure. La structure du gouvernement reste donc sensiblement la même, mais avec le le départ de plusieurs ministres issus de la société civile. Depuis des semaines, le sujet d'un remaniement animait la vie politique et les médias alors que cet outil de la Ve République n'apparaît plus comme un événement. Sous pression depuis les récentes protestations qui ont secoué la France, le président français Emmanuel Macron a confirmé le maintien à son poste de la première ministre, Elisabeth Borne, qui voulait procéder à des ajustements au sein de son gouvernement. Les protestations violentes fin juin avaient éloigné la perspective d'un remaniement ministériel. Mais une fois le calme revenu, les rumeurs ont repris de plus belle, allant d'un simple ajustement technique à un changement de première ministre. Pour que rien ne change, il ne faut rien changer. Le maintien d'Elisabeth Borne à Matignon traduit la dramatique déconnexion du président de la République qui a perdu tout contact avec le peuple et condamne le pays à l'impuissance et à l'immobilisme, a réagi sur Twitter la dirigeante du Rassemblement national Marine Le Pen. Macron a déclaré lors d'un nouveau conseil des ministres que les violences avaient mis en évidence le danger de fragmentation et de division profonde entre la nation. Nous devons apprendre de ce qui s'est passé et trouver les bonnes réponses, a-t-il précisé. Pour le président, se séparer d'Elisabeth Borne, c'était risquer de basculer dans une nouvelle phase du mandat, celle des coalitions, avant l'inévitable bataille de succession en vue de 2027. C'est pourquoi il a préféré attendre. Le meurtre d'un adolescent de 17 ans, d'origine africaine, par un policier a provoqué de vives protestations contre le comportement raciste de la police française. Cette nouvelle vague de protestations a déclenché des violences urbaines sans précédent depuis 2005. Le remaniement ministériel opéré par Macron a été donc interprété comme un signe de sortie de crise, car en plus des récentes manifestations, la France a également connu des protestations massives contre la réforme des retraites et généralement contre les politiques d'Emmanuel Macron. Deux jours après l'annonce des noms du nouveau cabinet d'Elisabeth Borne, les deux tiers du pays se sont dit insatisfaits de ce remaniement. Selon le dernier sondage Odaxa Backbone Consulting pour Le Figaro, 61% des Français se disent insatisfaits du remaniement annoncé par l'exécutif. Il s'agit là du plus haut niveau d'opinion négative à l'égard d'un gouvernement jamais mesuré par l'Institut depuis la première élection d'Emmanuel Macron en 2017. Et pour cause, 62% des sondés auraient souhaité que Matignon change de visage et que la première ministre soit remplacée. Les trois quarts des sondés, c'est-à-dire 74%, en déduisent donc que le tout nouveau gouvernement mènera exactement la même politique que le précédent. Parmi les insatisfaits, les sympathisants du RN ou Rassemblement national de Marine Le Pen arrive en tête avec 79% de mécontents, talonnés par les partisans de la France insoumise avec 73% et par ceux d'Europe Écologie Les Verts avec 69%. Le remaniement ministériel survient alors que la majorité des Français estiment qu'Emmanuel Macron n'a pas atteint les objectifs fixés à l'issue de ses 100 jours. Ceci dit, la solution ne passe pas à leurs yeux par le remaniement, mais par un changement d'approche bien plus large.